Ariel Astier, bonjour. Donc, plaisir de vous rencontrer à l'occasion de la sortie aux éditions Casterman de votre bande dessinée, votre première, Moody Rouge. Alors, votre éditeur le présente comme un thriller horrifique entre Dario Argento et Monster. Je me suis demandé si vous aviez lu les 18 tomes de Monster, signés Naoki Urasawa.
J'ai les éditions collector, alors...
Carrément.
C'est 10 tomes.
Qu'est-ce qui vous a inspiré chez cet auteur?
C'est l'univers mystérieux, c'est Allemagne un peu, 80, un peu... et les personnages, pareil, fascinants, mais en même temps... monstrueux, bah justement comme le titre. Et puis le héros, pareil, il me plaît beaucoup.
Naoki, il a 65 ans, il est japonais, vous en avez 24, vous êtes française. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une universalité, une intemporalité dans le manga?
En tout cas, dans l'œuvre de Naoki Urasawa, ouais, je sens vraiment un truc qui est pas mieux, qui est pas moins bien que les autres mangas, mais qui en tout cas s'inscrit vraiment dans quelque chose de plus universel, parce que parfois le manga c'est très
spécifique.
C'est très spécifique au Japon, et c'est tant mieux pour le manga. Mais Naoki Urasawa, ouais, je sens vraiment un truc un peu pas presque. Presque avec le public international en tête.
Ah ouais. Quand on adore les mangas, est-ce qu'on a envie absolument d'aller visiter le Japon?
Je ne parlerai pas au nom de tout le monde, mais moi oui.
Vous n'avez pas encore été?
Non.
Vous aimez les voyages?
Bon, je ferai une exception pour le Japon, mais on va vivre pour eux.
Pourriez expliquer un petit peu le choix des villes que vous utilisez dans votre album? Je suppose que vous n'auriez pas pris Lyon, ce serait plus difficile de trouver des Edelweiss là-bas, non?
Alors mon héros, il vient de Prague et ça se passe dans une ville de la montagne qui est pas spécifiée. Alors Prague, je voulais impérativement prendre une ville où je suis allée pour avoir au moins des petites références,
des repères.
Et la ville de montagne, c'est inspirée des Deux Alpes, qui est une ville française et qui est là d'où vient ma mère.
Ok. Alors parlons d'Argento, donc c'est le maître du giallo. C'est un genre qui avait fleuri dans les années 70-80. Ça fait surprenant. C'est vrai qu'on le remet au goût du jour assez régulièrement quand même. Hein. C'est un genre qui côtoie le policier, l'horreur, mais aussi l'érotisme. Et comment vous placez-vous l'érotisme?
Alors j'ai pas forcé le trait sur l'érotisme, même si disons que j'ai mis l'accent sur la beauté de mes personnages, on va dire, sur en tout cas ce qui moi m'attire. Je suis pas fan du côté érotique des giallo italiens. Je pense qu'il est un peu pour les hommes, on va dire.
Macho.
Un petit peu, mais bon, c'est les 70s, pourquoi pas. Non, moi c'est une espèce d'élégance un peu avec des jolis garçons.
Donc, comme on l'a dit, Monster Argento, c'est quoi, deux références qui sont complémentaires à la base ou carrément opposées, que c'est vous qui finalement les réunissez?
Je suis très fan de tout ce qui se passe dans les années 70-80, donc je consomme tout ce qui... vraiment, c'est vraiment un argument de visionnage pour moi, ça se passe dans les années 80-70, je regarde.
En cette période de wokisme un peu frileux, est-ce qu'on peut tout dire, tout dessiner?
Alors moi, je me considère wok, donc disons que vous serez jugé. Vous faites des conneries. Mais vous pouvez tout faire, évidemment, mais il ne faut pas craindre la critique.
Il y a des codes quand même à respecter quand on s'attaque au manga, non?
Moi, je suis pas tant dans le respect des codes stricts que dans l'appréciation vraiment très sincère de parfois des codes peut-être graphiques, peut-être un peu plus. On parle souvent de mimiques rigolotes au manga. Moi, je pense que c'est un peu plus vaste que ça, le découpage, le machin. Moi, je m'inspire vraiment beaucoup du manga, donc je pense que j'ai même plus de codes du manga que de codes de la BD.
Vous avez choisi le noir et blanc, à l'exception éventuellement de certains portraits de d'Agnetta et d'Ilia. Mm-hmm. Ça vous vient d'où ce choix ? Ça correspond à quoi ?
De mon parcours graphique personnel. Alors le noir et blanc, c'est pour le manga et c'est parce que j'aime la ligne claire. On peut pas vraiment appeler ça comme ça, mais disons. Pour faire simple, que ça va être ça. Et mon amour de l'illustration, j'ai fait aussi la couverture, tout ça, et vraiment, ça m'aurait bien embêté de pas faire des illustrations pour ma BD.
Mais quand j'ai quand même été voir vos profils, donc Insta, TikTok, etc. Et là, vous êtes en plein dans la couleur. C'est assez surprenant quand même.
Mais j'en suis moi-même surprise parce que je me considère pas du tout spécialiste de la couleur. C'est vraiment quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Mais c'est quelque chose.
En fait, vous forcez quand vous faites vos
flamars, en fait. Si on regarde un peu mes illustrations, elles sont pas monochromes, mais presque, en fait. Les couleurs sont très désaturées, mais parce que c'est des... Et ben justement, vu que j'aime les films des années 70, j'aime les films un peu naturalistes, c'est les codes couleurs que j'aime, moi. Mais quand je mets des couleurs très pop, il faut le savoir, c'est que je me force, je m'entraîne.
Quelle couleur préférée chez vous ?
C'est le vert, mais j'ai beaucoup plus de facilité à travailler que le bleu.
Je m'étais dit, en lisant votre BD, que finalement j'aurais bien vu des inserts rouges et de l'ouest, rouge sans...
C'était un débat qu'on a eu avec mon éditeur, pour de vrai. J'avais un peu peur que ça fasse... Il y a eu une mode... il y a eu une mode dans les années 2000 où il fallait mettre une trace de couleur dans les photos en noir et blanc. Je suis pas très fan. Je trouve que ça fait un peu gimmick.
Ah
ouais. Je voulais rester vraiment dans le noir et blanc autant que je pouvais.
Alors, vous êtes essayé, notamment à la 2D dans Gorilla, je crois. Est-ce que vous iriez jusqu'à la 3D dans vos dessins?
Alors, pour ceux qui consultent mon Instagram, je fais un tout petit peu de 3D, mais vraiment par passion. Moi, ce que j'aime, c'est le style un peu PlayStation 2, un peu machin. Faire de la vraie 3D, comme on voit au cinéma, je crois que j'y arriverai. Mais en tout cas, je m'entraîne à faire des petites choses en 3D. Ouais. Ça me plairait bien de continuer.
Si vous aviez à adapter votre ouvrage au cinéma, vous choisiriez la fiction ou le dessin animé ?
Très bonne question. La fiction, le film live, à mon avis.
Ah oui. C'est un passage quand même évident ou forcé.
Disons que ma BD, elle est quand même très inscrite dans le réel, même s'il y a des éléments très particuliers. Vraiment, j'y ai déjà réfléchi, évidemment. J'ai la chance d'avoir plus de repères dans le cinéma. Diriger des acteurs, machin, avoir des effets peut-être pratiques, peut-être effectivement un peu 3D. J'ai vraiment la vision du film live, en tout cas, et la film d'animation. Je connais les limites, on va dire, budgétaires.
énorme. Et de temps aussi.
Et de temps et de travail.
C'est des années.
C'est
pas ça. Quand on voit, on va en parler de Kaamelott, depuis le temps que vous l'avez tourné, et quand on sait qu'il ne sort que le 22 octobre, c'est quand même énorme aussi de ce côté-là. Et là, pourtant, on est en pleine fiction quand même. Hein, donc, c'est déjà quand même pas mal non plus dans ce domaine-là. Et si on adapte votre ouvrage, il y aura pas mal, je suppose, des effets spéciaux et qui amènent une post-prod quand même assez importante, non ?
Ouais, mais tellement moins que le film d'animation. Mais pour être passionné un peu moins que le reste, mais pour être vraiment très penché sur le cinéma d'animation, je sais les enjeux d'un tel projet et je n'ai pas envie de me lancer là-dedans. Si on me le propose un jour.
Si vous aviez à choisir de la musique justement pour accompagner vos images, j'ai vu aussi que vous aviez un choix quand même assez éclectique. On a la waltz numéro 2 de Shostakovich, le Last Christmas, le Love Remember de Killer pour le Dracula de Coppola, Dream. C'est assez varié quand même.
Des musiques que je choisis sur mon Instagram.
Ouais.
Ouais, moi j'aime plein de trucs variés. Disons ce que je choisirais pour mon si jamais ça a été adapté. Mmh. Il y a un artiste japonais que j'aime énormément qui s'appelle Kikuo et je sais qu'il a fait des génériques pour Madoka Magica, je sais pas trop. J'avoue que je l'ai jamais entendu, mais sinon je mettrais très franchement je mettrais de la techno.
Ah oui.
J'aimerais bien le contraste.
Ah, carrément. Alors, il semble que vous soyez partisane de dessiner à tout prix, de publier à tout prix, fini ou pas fini, bon ou pas bon. C'est surprenant, non? Parce que quand on pense que les réseaux sociaux sont quand même assez cruels au niveau des jugements, et il faut y aller, quoi. Est-ce que c'est le côté impudique ou le côté très courageux?
Ah non, c'est moi je vois, j'ai de la chance de voir plus le côté un peu communautaire, un peu plus tranquille. On partage même des petites choses, on partage des grandes choses, on partage un peu ce qu'on fait. Et j'ai pas eu vraiment de critiques acerbes pour l'instant. Donc exactement.
Vous avez choisi de faire toute seule, mm-hmm. Donc que ça soit le dessin, le découpage, l'écriture, etc. Je me suis demandé si c'était une marque de fabrique de la famille Astier, puisque on a un certain Alexandre qui est votre père, qui gère tout, que ça soit de l'écriture, de la production, de la réalisation, du montage et même de la musique. Ça correspond à quel besoin? C'est un manque de confiance par rapport au travail des autres ou quoi?
Alors je me permettrai pas de répondre par rapport à mon père,
il a son
moi c'est effectivement il y a, c'est pas un manque de confiance mais c'est un manque de rencontre, hein. Si un jour je croise quelqu'un avec qui ça matche bien, je serai ravie de travailler avec, mais c'est pour avoir l'objet le plus pur, le plus fidèle à la vision que j'en avais, avec les défauts et avec les positifs, mais en tout cas, c'est strictement ce que j'avais envie de rendre.
C'est déjà ça.
C'est pas mal.
Alors, on parle de cinéma. Donc, vous faites partie à nouveau de l'aventure de Kaamelott, deuxième volet, première partie. Et vous reprenez le rôle de Meben, c'est mm-hmm. ça? Toujours fille de Caradoc et de Mévanvie. M'évanouit. Ce sera toujours Jean-Christophe Ambert et Caroline Férus qui seront vos parents?
Alors, je n'ai pas le droit de donner trop de détails, mais on va dire, je vais juste dire oui et j'en dis pas plus.
Ça correspond à quel plaisir de participer à une aventure comme Kaamelott. Bon, c'est déjà la troisième fois, je crois, maintenant. Donc,
Moi, j'ai vraiment un truc du style, c'est très familial, la Kaamelott. Pour moi, c'est un peu difficile à imaginer pour...
C'est avec toute la famille. Elle.
Ouais, ouais. Pour moi, c'est presque une cousinade. Je vois les gens que je vois pas depuis longtemps, je rencontre de nouvelles personnes, mais en même temps, c'est dans le cadre de ma famille. Moi, je vois ça, en même temps, c'est du travail, et je fais mon travail très sérieusement. Mais il y a un côté vraiment, oui, je revois des membres de ma famille, quoi.
C'est ludique?
C'est parfois dur, parfois très dur. On a des conditions de tournage qui sont parfois un peu... un peu complexe, mais pareil, je ne peux rien en dire. mais en tout cas, je suis très contente de tourner avec des gens que je connais, des gens qui sont devenus mes grands amis avec les tournages, et je leur fais la bise s'ils écoutent ça. Ils se reconnaîtront.
Donc on parle de famille, de communauté, elle est abordée aussi dans votre livre. On va même jusqu'à la secte dans votre ouvrage. C'est une étape encore un peu plus poussée et un peu plus paniquante quand même, non ?
Et je donnerai pas trop de détails concernant ce sujet, mais en tout cas, j'ai une vision de la famille qui est extrêmement positive et aussi un peu teintée de choses.
Ariane, un grand merci. Donc on rappelle Moody Rouge, sorti aux éditions Castormont, et à lire absolument. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.